J'aimerais parler ce matin sur surmonter le sentiment de rejet. Dans Genèse chapitre 21, verset 1er, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Et elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants ? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante avec son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant, et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Puis il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. On connaît tous ce passage où nous avons été rejetés, où on a eu le sentiment, du moins, d'avoir été mis de côté, peut-être pour différentes raisons. Cela génère en nous, en général, un certain repli sur soi, une peine, une dévalorisation, parce que quand on est rejeté, eh bien, on se sent inutile, sans intérêt dans ce monde. Alors j'aimerais voir avec vous que Dieu nous aide à surmonter ce sentiment, d'abord parce qu'il nous aime, et nous pouvons affirmer que Dieu aime toutes les personnes de cette terre, et particulièrement il y a un plan pour ses enfants. Il nous accueille malgré nos faiblesses, nos défauts, et puis nous avons une valeur à ses yeux. Dans un premier temps, j'aimerais voir avec vous du verset 1 au verset 8 l'histoire de la naissance d'Isaac. On a suivi un petit peu Abraham dans ses déplacements depuis quelque temps. On sait que cette promesse est venue alors qu'il avait 75 ans, qu'il a connu des hauts et des bas. Il a eu des moments où il a fléchi face à la difficulté parce que l'enfant n'arrivait pas. Ça faisait quand même 24 ans. Plusieurs années, pardon, pas encore autant, mais peut-être, je pense, plus de 10 ans qu'ils étaient partis et il n'y avait toujours pas d'enfant. Et à un moment donné, Sarah a eu l'idée de passer par la servante Agar, et c'est comme ça que Ismaël est né, donc un enfant, mais ce n'était pas encore Isaac. Alors nous arrivons à l'accomplissement de ce que Dieu avait dit 25 ans en arrière, donc maintenant il a 100 ans, Abraham, Sarah 90. Et peut-être ils étaient encore les derniers à y croire parce que la plupart de leurs amis leur avaient dit « Bon ben, c'est plus la peine d'espérer à votre âge d'avoir encore un enfant. » Mais ce texte nous dit que Dieu se souvint de la promesse qu'il avait faite, parce que Dieu n'a pas oublié les promesses qu'il a faites à ses enfants, et il va les accomplir en son temps. Il y a un temps de Dieu. Peut-être le temps de Dieu nous échappe, mais je remarque que dans ce texte, c'est arrivé au temps que Dieu avait fixé. Il y a un temps que Dieu a fixé pour que la bénédiction prenne place. Quelquefois, nous ne comprenons pas toujours le temps de Dieu, mais j'aimerais voir avec vous ce matin que le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Nous, nous vivons tous avec des montres et des plannings, et nous aimons bien pouvoir programmer dans la semaine tout ce qui va être fait, même dans l'année. On fait des projets à plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais le temps de Dieu est encore autre chose. Il y a un verset qui dit « Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Un jour, je suis tombé sur un dessin un peu humoristique d'un chrétien qui parlait à Dieu et qui disait ben, « Puisque un jour, pour toi, c'est comme 1000 ans, donc il disait ben, « 1 euro, c'est comme 1000 euros. » Alors, tu ne voudrais pas me donner 1 euro? Pour toi, c'est rien. » Et puis, il y a une voix du ciel qui lui disait, « Bon, ben, attends une petite minute. » Ça, c'est le temps de Dieu. Alors, il y a des temps que Dieu a fixés. Et ces temps-là, quand le temps arrive, c'est le temps de la bénédiction. Dans Apocalypse, pour vous le montrer, il est écrit que les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, ils furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Là, il y a un temps qui avait été fixé. Et ça, c'est dans le futur encore. Il y a un temps fixé pour un moment où il va y avoir les événements de l'Apocalypse qui vont prendre place. Alors, c'est vrai que quelquefois, nous sommes impatients. Et on peut comprendre Abraham, 1 année, 2 années, 5 années, 10 années, mais on ne peut pas devancer le temps de Dieu. Dieu a promis qu'il allait le faire. Mais il y a un temps fixé, et tant que ce temps n'est pas arrivé, eh bien nous devons patienter. Et à ce moment-là, nous arrivons à Genèse 21, c'est le temps de la bénédiction. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a des temps, il y a des rendez-vous de Dieu. Je pourrais vous en citer 2, en ce qui me concerne, 2 rendez-vous forts. Le premier rendez-vous, c'est lorsque... Dieu m'attendait dans une église et que j'avais fait cette prière 3 jours avant. Dieu, si tu existes, parle-moi. Et dans cette église, un don spirituel, Dieu a parlé et je sais que c'était pour moi. En fait, c'était une parole de Dieu. Pourquoi es-tu assis entre 2 chaises? Tu es entre l'église et le monde. Tu dois donner ton cœur aujourd'hui. Et ça, c'était un temps fixé. C'était un rendez-vous de Dieu. Et là, j'ai senti que Dieu m'appelait à lui donner mon cœur, ma vie. Et j'ai accepté Jésus dans mon cœur ce jour-là. Mais je ne savais pas en entrant dans cette salle que ce jour-là, Dieu m'avait fixé un temps, un rendez-vous. C'est les temps de Dieu. Un autre temps de Dieu extraordinaire, c'est quand j'étais à Gap et que j'avais fait... Et là, il y avait un rendez-vous fixé, je ne le savais pas. J'avais fait une colonie de 3 semaines et je rentrais, j'étais dans la voiture. J'étais prêt à partir chez mes parents. J'avais tous mes bagages dans le coffre. Je mets la clé sur le contact, le moteur tourne. Et là, cette parole de Dieu qui me dit « Tu restes encore ici 3 jours. » Et moi, je ne savais pas pourquoi je devais rester ici 3 jours et je ne comprenais pas si ça venait de mon imagination ou si ça venait de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai obéi. J'ai fermé le contact, je suis retourné voir le directeur, je lui ai dit « Il faut que je reste ici. Allez, je dois rester encore ici. » En même temps, je priais pour qu'il ne me demande pas « Mais pourquoi tu dois rester ici 3 jours ? Mais pourquoi 3 jours ?» Parce que j'étais embarrassé, je ne savais pas moi-même pourquoi. Alors, je suis resté une journée sur place, 2 journées. Et puis, le 2e jour, il y a Laurence qui est arrivée dans le centre. Alléluia. Ça, c'était un rendez-vous, c'était un temps fixé par Dieu. Et je bénis le Seigneur d'avoir écouté sa voix ce jour-là, parce que après nous nous sommes rencontrés, on s'est fiancés, on s'est mariés. Il y a quelques jours, une chrétienne me disait, c'est formidable, à l'Assemblée Générale, on a vu les photos des 4 mariages de l'année 2015, les bébés qui sont arrivés dans l'année 2015, elle me dit, ben, on voudrait encore voir des photos comme ça. Alors je lui dis, mais il n'y a pas de problème, il suffit qu'il y ait des mariages et des bébés qui arrivent. Alors ça, c'est la part de chacun maintenant. Alors, c'est toujours une bénédiction quand on a des temps fixés et qu'on rentre dans les projets de Dieu. Isaac est né. Isaac signifie « il rit ». Au verset 6, il est dit « Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire et quiconque l'apprendra rira de moi ». Et à ce moment-là, on voit que la circoncision a pris place, puisque c'était le moyen d'alliance dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 17, il est dit « Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, c'est ce qui s'est passé donc pour Isaac, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né à la maison ou acquis à prix d'argent et de tout fils étranger sans appartenir à ta race. » La circoncision signifie 3 choses. Il y a 3 paramètres qui sont nécessaires. D'abord, la responsabilité de l'homme était engagée. Ensuite, il fallait croire en Dieu. Et troisièmement, il fallait accepter d'obéir à la parole de Dieu. Ça, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, Jésus est venu et il nous a dit « Je viens établir une nouvelle alliance avec mon peuple. » C'est la nouvelle alliance en mon sang. C'est ce que nous avons rappelé quand il y a la Sainte Cène. Il y a Jésus qui prend du pain, qui prend du vin, et il dit « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. » Donc nous sommes dans la nouvelle alliance. Et l'alliance est basée maintenant sur la croix de Christ qui a versé son sang pour effacer nos péchés. Donc ça, c'est quelque chose d'acquis. Mais néanmoins, les 3 aspects de l'alliance de l'Ancien Testament demeurent, c'est-à-dire la responsabilité, c'est à chacun de prendre part, la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et même si Jésus est mort pour tous, si nous ne croyons pas dans son sacrifice, nous ne pouvons pas bénéficier de la croix. Et puis, d'accepter à obéir à la parole de Dieu. Les conditions sont les mêmes, mais l'alliance a changé. Et j'arrive à partir du verset 9, où il est question du rejet d'Agar et d'Ismaël. Et c'est parfois ce qui peut nous arriver, parce que le rejet a plusieurs origines. Dans ce passage, Agar est rejetée parce qu'elle est d'origine égyptienne, donc elle n'est pas du peuple d'Israël, du peuple d'Abraham, du peuple de Dieu. Elle est une étrangère, et peut-être ça peut être un sujet de rejet aussi, que nous vivons, parce qu'on est étranger, parce qu'on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même manière de voir, et on peut se sentir mal accepté, rejeté, peut-être au travail, ou dans nos activités, parce qu'on est différent, alors on est rejeté. C'est le cas d'Agar, elle est rejetée. Agar, c'est pour une raison de jalousie. Parce que Sarah était très jalouse que finalement elle ait eu un enfant avant elle, et elle lui dit au verset 10, « Chasse cette servante avec son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Elle ne pouvait pas concevoir que maintenant, pourtant c'était elle qui avait eu l'idée, il faut rappeler quand même l'histoire, c'était Sarah qui avait dit à Abraham, il faudrait peut-être que tu aies un enfant par Agar, ce serait une solution pour accomplir la parole de Dieu. Eh bien finalement, elle a rapidement mis de côté ce plan et éprouvé de la jalousie vis-à-vis d'Agar. Alors il est rejeté, Ismaël est rejeté, peut-être c'est un enfant non désiré, comme ça arrive dans certaines familles. On fait sentir à l'enfant qu'il est de trop, qu'il n'avait pas été prévu, qu'il est une erreur. Et tout cela, c'est un poids pesant sur la vie d'une personne qui l'accompagne toute sa vie. Peut-être c'est une différence physique. On n'est pas comme les autres, on est peut-être plus petit ou très grand. Ça peut générer une forme de rejet. Alors, Agar va être chassée du foyer et sa situation va être véritablement sans issue. Elle se retrouve dans le désert. D'abord, il faut se rappeler que ce n'est pas la première fois qu'elle est chassée. Donc, le rejet, elle sait ce que c'est. Déjà, dès qu'elle était enceinte, en fait, d'Ismaël, donc il y a bien des années auparavant, elle a été déjà une première fois rejetée, puisque Sarah avait dit, Sarah la maltraitait, c'est marqué dans la Bible, et elle avait dû fuir une première fois. Et puis, Dieu avait permis qu'elle revienne au foyer, et là, c'est une deuxième fois qu'elle est rejetée. Et là, elle part dans le désert et personne ne l'aide cette fois-ci. Elle a juste un peu d'eau, un morceau de pain, mais dans le désert, elle n'arrive pas à se repérer et elle se perd. Et des fois, on est un peu comme cette personne, Agar, personne ne nous comprend, personne ne, euh, peut nous aider parce que nous sommes perdus comme dans un désert, rejetés. C'est peut-être le pire endroit où on peut se trouver parce que c'est un lieu de mort, il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'eau, et c'est vraiment la fin. Néanmoins, il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'elle va crier et l'enfant va aussi faire monter sa voix vers Dieu. Et la Bible dit que même si nous sommes rejetés, nous sommes dans un désert, il n'y a personne qui ne peut plus rien faire pour nous. En tout cas, Dieu entend la voix de notre prière qui monte vers lui. Il y a un psaume qui dit « Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Il y a peut-être des larmes qui montent vers le Seigneur, mais Dieu connaît le besoin de notre cœur. Il y a des prières secrètes, il y a des prières que l'on n'osera pas partager, mais qui sont suite à des souffrances, à des rejets. Mais en tout cas, dans ce texte, nous voyons que Dieu ne les a pas laissés mourir là, dans le désert, mais qu'il a fait grâce à cette famille, afin qu'ils puissent repartir. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus prêchait l'Évangile, un jour, il y a des parents qui ont amené leurs petits-enfants pour que Jésus les bénisse. Et c'est une bonne chose d'amener nos enfants en présence de Jésus, nous le croyons. Mais les disciples ont eu une réaction de rejeter les enfants, de rejeter les enfants vers leurs parents pour dire non, le Seigneur n'a pas le temps de s'occuper de vous. Il est trop occupé avec les autres personnes. Et en réalité, on voit qu'est-ce que fait Jésus ? C'est l'accueil. Jésus accueille les tout-petits et leur dit mais le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, vous pouvez... On peut s'approcher de Jésus, on est accueilli dans sa présence. Dieu n'a pas rejeté Agar et Ismaël, même si ils ont été mis de côté, même si ils étaient sans issue. Eh bien, Dieu a dit « Je ferai d'Ismaël une grande nation » et on sait que ça s'est accompli puisque Ismaël est devenu l'ancêtre du peuple arabe. C'était pourtant très mal parti cette histoire parce que si on regarde, elle était dans un désert, elle n'avait plus d'eau. Elle a laissé son fils sous un arbre qui allait mourir. Elle pensait mourir plus loin pour ne pas voir son fils mourir. Donc, il n'y avait aucune issue. Et pourtant, la parole de Dieu dit, non, je ferai de lui une grande nation. Et à partir de rien, Dieu a fait quelque chose de grandiose. Mais c'est souvent comme ça que Dieu agit. À partir de peu, il fait beaucoup. Parce que l'ange de l'Éternel va arriver à ce moment-là, et l'ange de Dieu, nous savons que c'est une figure de Jésus déjà dans l'Ancien Testament qui se manifeste à plusieurs reprises. Et c'est l'ange de l'Éternel qui vient avec des promesses. Et la Bible dit que Dieu va ouvrir les yeux de cette femme Agar afin qu'elle voie le puits. Il y avait un puits, que Dieu a permis qu'il y ait un puits ici pour qu'elle puisse se désaltérer, sauf qu'elle ne le voyait pas. Peut-être elle était trop dans sa souffrance. C'était pour elle impossible. Elle n'arrivait pas à voir les choses. Et Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'elle voie. Peut-être on est un peu comme cette femme Agar, on ne voit pas les choses de Dieu. On ne voit pas le puits, on ne voit pas la bénédiction qui est là. Parce qu'on est trop dans la souffrance, on voit tous les défauts, on voit les obstacles, on voit les impossibilités. C'est un petit peu comme si on avait mis des lunettes sombres. Mais on peut mettre les lunettes de la foi et dire « Seigneur, je veux voir ce que tu veux me montrer. Encore Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta gloire. » Jésus l'a fait pour une femme samaritaine lorsqu'il venait chercher de l'eau pour se désaltérer. Et cette femme était au bord du puits. On trouve ce récit dans Jean chapitre 4. Et cette femme venait pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « donne-moi à boire ». Et elle est interpellée par la demande du Seigneur. Il y a toute une discussion qui prend place. Mais Jésus, ce qu'il veut faire, ce n'est pas tellement simplement de boire, mais c'est de l'amener à découvrir, c'est-à-dire lui ouvrir les yeux sur une autre sorte d'eau qui va apporter la vie dans son âme, la vie dans son cœur. C'est ça dont elle a besoin finalement. Alors Jésus lui dit dans Jean 4, « Quiconque boit de cette eau, il parle de l'eau du puits, aura encore soif, mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Ah, il bascule de l'eau du puits sur une autre source d'eau qui est spirituelle, qui est celle de Jésus. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On peut dire que le Seigneur, ici, va lui ouvrir les yeux pour qu'elle voie que ses besoins ne sont pas simplement de manger, de boire, de se vêtir, de gagner de l'argent, d'avoir un toit, une maison, une voiture, etc. Ça, c'est les besoins matériels. Mais il montre à cette femme, en lui ouvrant les yeux, il y a dans ton âme, il y a dans ton cœur d'autres besoins qui sont spirituels, qui sont bien plus profonds, qui sont d'une eau vive que tu n'as pas goûté dans ce monde et moi je peux te la proposer. Et c'est comme ça que cette femme va découvrir que Jésus n'est pas simplement un homme, un prophète, mais qu'il est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Il y a toute une, toute une démarche pour que ses yeux s'ouvrent. Et à la fin, elle reconnaît que Jésus est le Messie. Donc nous voyons que Jésus désire nous ouvrir les yeux. C'est exactement la parole que Jésus donne à Paul dans Actes 26, quand il dit à Paul qui était, c'était un homme juif qui s'était converti, qui était devenu chrétien, et il dit « Je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » On a exactement le même principe encore aujourd'hui, c'est que nos yeux sont fermés, nous ne voyons pas les choses, mais dans la prière, nous pouvons ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles et voir la gloire de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait. Donc le rejet, je reviens à Agar qui est rejeté. Le rejet sera parfois sur notre route. Nous le voyons avec Jésus. Il a été rejeté par même ses frères, ne croyaient pas en lui, par son peuple, qu'il a méprisé, ne croyait pas qu'il était le Messie. Il a été rejeté par les disciples qui l'ont abandonné le soir de son arrestation. Il était seul contre tous, donc il a connu le rejet. C'est pourquoi nous disons que Jésus, il peut comprendre les situations par lesquelles nous passons, parce qu'il a lui-même souffert des tas de rejets. Je pense à David, au psaume 27, qui écrit cette parole, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est une forme de rejet, d'abandon qu'il peut ressentir de la part de sa propre famille. C'est peut-être le cas de quelqu'un qui a été rejeté par ses parents, qui a été mis de côté. Et alors, qui fera quelque chose pour nous quand nous sommes rejetés par nos parents? Eh bien, la Bible dit, mais l'Éternel me recueillera. Il y a toujours une solution dans la présence de Dieu. Je pense à Joseph, les multitudes de rejets qu'il a connus. Tout d'abord par son père, qui ne comprenait pas ses rêves. Ses frères qui étaient jaloux parce que Joseph avait beaucoup de visions. Et les frères ne comprenaient pas, ils n'étaient pas spirituels, ils n'étaient pas proches de Dieu. Alors ils ont rejeté Joseph au point de faire un complot pour le tuer. Vendu comme esclave, misérable, Potiphar, il va réussir un petit peu à s'en sortir, mais néanmoins, la femme de Potiphar l'accuse de viol, il est jeté en prison, rejeté à nouveau. Mais néanmoins, quand on voit toutes ces successions de difficultés, de rejets, et on ne souhaite à personne ce type de rejet, bien sûr, mais regardez bien son histoire, et vous voyez que cette prison où il a été rejeté, mis de côté, finalement, c'est là qu'il fallait qu'il se trouve. C'est-à-dire que Dieu a utilisé tous ses rejets, en fait, pour le pousser vers sa destinée. Sa destinée, il fallait qu'il passe par cette prison, parce que c'est dans la prison qu'il a rencontré la bonne personne, qu'il a mis en contact avec le Pharaon. Mais s'il n'était pas passé par là, il n'y avait pas cette connexion qui pouvait se faire. Donc le rejet, ici, va devenir finalement une forme de plan qui se met en place que évidemment Joseph ignore, mais qu'il va comprendre en définitive quand il arrive au point de la prison où il rencontre les chansons et il comprend que c'est là la personne qu'il fallait qu'il rencontre. Donc Dieu utilise même tous ces rejets pour nous conduire là où nous devons être. Si toutefois nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, si nous voulons faire sa volonté, bien sûr. Alors nous avons tous les mêmes besoins, qui que nous soyons, quelle que soit notre couleur de peau, notre culture, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être accepté, on a besoin d'être encouragé, ça c'est normal. Et remarquez que dans notre vie, nous vivons souvent le contraire. Nous sommes souvent rejetés, nous sommes souvent découragés, nous sommes souvent méprisés ou incompris. Alors que doit faire l'Église? Eh bien l'Église de Christ aujourd'hui doit être un lieu d'accueil, un lieu d'amour fraternel, puisque nous devons développer les relations fraternelles, un lieu d'acceptation où on voit les différences non pas comme un obstacle, mais comme une richesse. Dieu a donné des dons, des talents. Certains ont reçu pour des domaines. Par exemple, il y en a qui ont reçu pour la cuisine, d'autres pour le bricolage, d'autres pour le chant, d'autres pour la musique, etc. Tout cela fait un ensemble très disparate, mais en même temps, quand on les met au service de Dieu, les dons, les talents que Dieu nous a donnés, eh bien c'est quelque chose de glorieux et c'est une bénédiction. Et puis l'Église, c'est aussi un lieu de pardon où nous pouvons apprendre à nous aimer, à nous connaître et à nous pardonner. C'est une vraie bénédiction. Donc, l'Église ne doit pas être un lieu de rejet, d'exclusion, mais d'accueil. Pour ça, la Bible nous encourage beaucoup avec cette expression « les uns les autres ». Quand il dit « aimez-vous les uns les autres ». Encouragez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Alors, ça revient souvent dans les Écritures que nous devons être accueillants, que nous devons être, accepter les différences et nous aimer les uns les autres. Peut-être dépasser nos clichés, nos idées préconçues et avancer dans l'amour de Dieu. Une troisième partie dans ce message, c'est que faire si l'on est rejeté. On est peut-être d'abord rejeté à cause de sa foi. J'ai connu cela dans plusieurs situations où quelqu'un se convertit à Jésus dans une famille et cela fait une forme de rejet. Du coup, elle n'est plus admise dans certains aspects de la famille. C'est une souffrance. Jésus nous a prévenus aussi de cela et il nous a dit qu'il y aurait même parfois des divisions dans les familles à cause de l'Évangile, que certains seraient rejetés à cause de leur foi. Mais il faut prier pour cela, pour nos familles, peut-être les conjoints qui ne sont pas au Seigneur ou la famille qui n'a pas accepté l'Évangile. Prier pour que Dieu touche leur cœur, parce que si Dieu nous a fait grâce, il peut aussi leur faire grâce. Et il peut les toucher et les sauver. Se rappeler aussi notre vraie valeur. Parce que si les hommes nous rabaissent ou nous rejettent, nous savons ce que nous sommes en Christ. Alors certains, peut-être, se moqueront de vous, vous rabaisseront. Je me rappelle, il y a des années, ça m'avait assez attristé dans le cadre d'un travail que je faisais dans l'entreprise. Il y avait un homme qui travaillait un peu plus lentement que nous. Et la chef de service, elle avait voulu l'humilier devant tout le monde, elle l'avait fait mettre debout et elle l'avait sali devant tout le monde. Vous voyez. C'était vraiment triste de voir cela. Il avait été vraiment cassé, cet homme, par les remarques blessantes. Et alors pour se relever de cela, c'est très difficile. Certains vont se moquer, certains vont vous dénigrer, certains ne vous aimeront pas. Et ça, on ne peut pas changer ces choses-là parce que nous sommes dans le monde qui est comme ça. C'est un monde qui est manipulé, qui est mauvais, manipulé par des principes spirituels qui ne sont pas de Dieu. Mais néanmoins, nous pouvons nous rappeler notre vraie valeur, c'est-à-dire ce que Dieu dit que nous sommes. Ça, nous pouvons le faire. On ne peut pas forcément changer toute la société. Mais on peut, en tout cas, nous rappeler ce que nous sommes en Christ. Ce que nous sommes en Christ, c'est ce que la Bible dit de nous. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? C'est que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons de la valeur à ses yeux. La Bible dit que nous sommes comme la prunelle des yeux de Dieu. Celui qui touche, touche à la prunelle de mes yeux, dit l'Éternel. Nous sommes des bien-aimés de l'Éternel. Nous sommes de la famille de Dieu. Il y a tout un enseignement pour nous montrer combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et Jésus aussi en parle lorsqu'il dit que nous valons bien plus que tous les animaux, que tout le reste de la création. Quelle est la valeur que nous avons finalement? C'est la valeur d'une chose, si on réfléchit, c'est ce qu'on est prêt à payer pour l'obtenir. Mais qu'est-ce que Jésus a offert pour nous sauver? Il a offert ce qu'il avait de plus précieux, c'est son sang. Il a donné son sang pour nous racheter. Donc la valeur, elle est liée au sacrifice de Jésus lui-même, ce qu'il a donné de plus précieux pour effacer nos péchés. Voilà notre vraie valeur, voilà ce que nous sommes en Christ, et c'est cela que nous ne devons pas quitter des yeux. En conclusion, rappelons-nous toujours ces choses. Si les gens vous rejettent, s'ils vous mettent de côté un petit peu comme Agar, eh bien, rappelez-vous que Dieu vous aime et qu'il a un plan pour vous, et que Dieu n'a pas abandonné Agar ici, dans son désert avec son fils pour les laisser mourir. Ce rejet a été pour eux une parole, un puits, une bénédiction. Il sera aussi une nation. Et ils ont continué, ils ont parcouru leur chemin. Donc peut-être vous serez rejeté à cause de votre culture, votre couleur de peau, votre origine, votre différence, votre expression différente. Peut-être vous êtes à part, mais vous êtes aussi unique. Et c'est ce qui fait aussi une force. Et finalement, on voit que nos faiblesses, nos difficultés peuvent devenir une bénédiction, une force dans certaines circonstances, parce que le plan de Dieu pour nous, eh bien, il est adapté en fait à chacun. C'est pas le même plan pour... Dieu n'a pas fait un plan, par exemple, un plan pareil pour tout le monde. Il a, pour nous en particulier, une directive, un plan, parce que nous sommes aimés, nous sommes des êtres précieux à ses yeux. On va prier quelques instants, peut-être prier pour celui ou celle qui passe par un sentiment de rejet, qui se sent particulièrement mis de côté. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur que Dieu vous aime et qu'il a un plan pour votre vie et que même si des gens autour de vous ne vous aiment pas ou des gens vous méprisent à cause de votre difficulté de langage ou votre couleur de peau, cela n'empêche pas ce que nous sommes réellement quand nous sommes en Christ, que nous sommes aimés de Dieu et que nous avons un prix à ses yeux, que nous avons une valeur. Parce que tout être humain a une valeur aux yeux du Seigneur. Parce que Jésus, quand il est mort pour tous les hommes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur race, quelle que soit leur culture, bien Jésus vous aime tous pareillement.